Eric vient de le dire, notre fédération a donc fait de ce dimanche une occasion particulière pour évoquer la question des vocations. Et tout d'abord, une vocation, qu'est-ce que c'est? Et le Larousse en donne trois définitions. Premièrement, c'est une destination privilégiée ou naturelle de quelque chose, de quelqu'un, d'un pays, d'un groupe, du fait de sa nature, de ses caractéristiques. En quelques mots, en quelques termes, le Larousse n'emploie pas ce mot-là, mais il me semble percevoir là-dedans l'idée d'une prédisposition naturelle. La deuxième définition qu'il donne de la vocation, il dit, c'est une inclination, un penchant particulier pour un certain genre de vie, un type d'activité. Et comme exemple les plus couramment cités, vous avez la vocation médicale, la vocation à l'enseignement, mais vivant moi-même mon métier comme une vocation et n'étant dans aucun ni l'un ni l'autre de ces domaines, j'en limiterai pas l'appellation aux seules professions à destination humaine ou sociale. Et enfin, une troisième définition que donne le Larousse, c'est un acte par lequel Dieu prédestine tout homme à un rôle déterminé qui constitue sa finalité, sa destination. Et il cite l'exemple de l'appel au sacerdoce ou à la vie religieuse. Le verbe duquel vient le mot vocation, c'est évidemment en français, le verbe vouer. C'est le verbe vouer. Vouer, consacrer sa vie à quelque chose, à quelqu'un, à une idée ou à une activité. Et bien entendu, au sens chrétien du terme, la vocation, c'est la consécration de sa vie à Dieu, c'est vouer sa vie à Dieu, indépendamment de la forme que prendra cette consécration, qui sera bien sûr très différente d'une personne à l'autre et intimement liée à ses talents. Et on va rejoindre la première notion qu'on a dite, selon ses talents, selon ses prédispositions naturelles, ses aptitudes ou sa formation. Et le mot vocation qui apparaissait dans les traductions traditionnelles de la Bible est plus généralement traduite dans les versions modernes par appel. Et c'est vraiment une traduction que je trouve assez avantageuse, car elle fait mieux ressortir que nous ne sommes pas seuls dans cette affaire, dans cette histoire de vocation, que nous ne nous consacrons pas à Dieu de manière unilatérale, mais que nous répondons à un appel qui nous est adressé par lui. Et je vais citer quelques exemples, mais qui sont vraiment des exemples et pas exhaustifs du tout. Ce sont pas les seuls où les anciennes traductions qui employaient le mot vocation le remplaçaient par appel. Je lis par exemple dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 1, dans la version du Semeur. Paul dit, moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel, donc de la vocation, qui vous a été adressée. Philippiens 3:13, dans la version second 21, il dit ceci, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, toujours l'apôtre Paul dit « C'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que votre Dieu vous trouve digne de son appel et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. » Et enfin, on change d'auteur avec Pierre dans sa deuxième épître, dans la version second 21, qui dit « C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel ou la vocation et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. » Donc, vocation, appel étant peut-être la l'expression un peu plus moderne, un peu plus compréhensible de nos jours que le mot vocation lui-même. Et dans cette thématique de la vocation, deux notions se dégagent. Celle de la vocation générale, l'appel de Dieu pour tout chrétien à marcher d'une manière digne de l'appel qui lui a été adressé dans une vie qui ne lui fasse pas injure, mais au contraire l'honore. Et puis, il y a la vocation particulière, l'appel particulier de Dieu envers une personne en particulier, à le servir d'une manière bien précise, en un lieu précis, dans un milieu précis ou dans des circonstances précises. Bien entendu, le dimanche des vocations que nous propose notre fédération, pour vocation, c'est le cas de le dire, à prier pour ceux et pour celles qui consacrent leur vie au ministère de l'Évangile. De prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers dans sa moisson, qu'il suscite un grand nombre et un nombre croissant de serviteurs, qu'il les équipe, qu'il pourvoie à leurs besoins, et je rappelle que leurs besoins sont les mêmes que les nôtres, nourriture, vêtements, tout comme nous, et plein d'autres choses encore, pour leur formation, pour les structures qui les enseignent et les accompagnent. Et si vous avez regardé un petit peu en détail nos budgets, qu'on regarde en Assemblée Générale, vous aurez constaté que notre Église contribue financièrement aux vocations, en particulier les jeunes vocations. Mais vous y verrez aussi que nous contribuons également très directement par le soutien à des institutions qui ont en charge, qui ont vocation à former ceux que le Seigneur appelle et désire envoyer. Et pour finir, nous n'oublions pas d'encourager et de soutenir la formation de tous ceux d'entre nous chez qui nous discernons un appel du Seigneur à servir dans un domaine particulier, parmi nous ou loin de nous. Mais quand je considère les quelques passages que nous venons de lire, et bien d'autres encore, je serais quand même très étonné que l'appel de Dieu consiste pour le reste, ceux qui ne sont pas destinataires d'un appel particulier, que cet appel consiste pour la plupart d'entre nous à venir s'asseoir ici le dimanche matin et à juste écouter ce qui sera dit. D'ailleurs, la parole d'un chant m'a frappé. Chanter ne suffit pas. On va chanter. Alors non pas bien sûr que je considère comme néfaste de s'asseoir pour écouter, bien au contraire, c'est même indispensable. Mais ce qui a vraiment caractérisé les débuts de l'Église et par la suite tous les réveils qui ont porté de grands fruits, c'est cette capacité à s'interroger personnellement, individuellement, sur ce que Dieu attend de nous, sur ce à quoi il nous appelle très personnellement. Et c'est cette question qui est posée à Pierre juste après son discours, le jour de la Pentecôte, par tous ceux qui ont été touchés par ce discours. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Alors, certes, il est vrai que la réponse de Pierre, même si elle ne se limite pas, ben, asseyez-vous là, écoutez, elle ne les invite pas non plus spécialement à devenir des grands missionnaires. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. Changez de vie, c'est ce qu'il leur dit, changez de vie. Tournez le dos à votre ancienne vie et faites-vous baptiser. Et oui, ensuite, bien sûr, se laisser enseigner par les apôtres sur tout ce que leur a transmis Jésus. Mais très vite, très rapidement, on le voit dans les actes et on le voit dans nos églises, dans notre église, quand quelqu'un vient de rencontrer le Seigneur et passe par le baptême. Il y a quelque chose qui le pousse intimement à le servir d'une manière qui lui est propre, particulière et active. Et très vite vient le temps de devenir acteur de l'Église naissante de Jérusalem, comme on le lit dans les Actes, de mettre en place les groupes de maison, un groupe de maison chez soi, d'en être responsable. Je parle bien sûr de notre église, parce que le groupe de maison, c'est quelque chose qui résonne dans notre église, mais il y avait des groupes de maison à Jérusalem. Hein, quand on le lit, ils se réunissaient dans les maisons. Peut-être qu'ils n'appelaient pas groupe de maison, mais c'était exactement cette action-là. Et puis, l'action sociale auprès de la population. Et l'incident du chapitre 6 qui nous montre un problème, nous montre aussi que l'action sociale était déjà à l'œuvre et bien en place, malgré ses imperfections. Quand Paul arrive à Rome, il nous est dit que des frères viennent à sa rencontre pour l'accueillir. Paul, à ce moment-là, n'a jamais mis les pieds à Rome. Et nous sommes autour de l'an 60. Ça signifie qu'en moins de 30 ans, l'Évangile a déjà franchi les quelques 2200 kilomètres qui séparent à vol d'oiseau Rome de Jérusalem, en moins de 30 ans. Et que l'Évangile a déjà fait des disciples suffisamment informés, savoir qui est Paul, quand et pourquoi il arrive. Et n'oublions pas que c'est avec les moyens de communication de l'époque qui sont incroyablement limités par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, que tout écrit ne peut être reproduit qu'en le recopiant à la main, un par un. La case nombre de copies n'existait pas dans le logiciel Scribword. Et pourtant, les apôtres ont pu constater de leur vivant l'accomplissement d'une promesse faite par Jésus quelques jours avant la Pentecôte et que nous retrouvons au tout début du livre des Actes. Et je vous invite donc à ouvrir vos Bibles au chapitre 1 des Actes des Apôtres, dès le début. Cher Théophile, dans mon premier livre, donc il parle de, c'est Luc qui parle de son récit de la vie de Jésus, donc qui est devenu ce qu'on appelle l'Évangile de Luc. J'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants en leur donnant de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs, pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ici à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Et la phrase sur laquelle j'aimerais que nous nous concentrions, c'est le verset 8 que je vais donc relire. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors tout d'abord, c'est assez frappant de constater que cette parole de Jésus est encadrée avant et après par la préoccupation des disciples de voir Jésus venir rétablir son royaume. Mais Jésus, comme les deux hommes en blanc qui leur apparaissent, probablement des anges, ce n'est pas des infirmiers psychiatriques, leur disent très clairement que non, ce n'est pas pour maintenant que Jésus va rétablir son royaume, que maintenant, ils ont un rôle à jouer et que ce rôle, c'est d'être témoin de Jésus. C'est là leur vocation, c'est là leur appel. Et on peut s'interroger sur la compréhension qu'ils peuvent avoir à cet instant de cet appel. Témoin de Jésus à Jérusalem, dans toute la Judée, ouais. Auprès des Juifs, pourquoi pas. Dans la Samarie, coince un peu. Hein. C'est déjà un peu plus compliqué avec ces gens à moitié juifs, à moitié païens. Mais enfin, mettons, Jésus nous a déjà un peu briefé là-dessus avec sa parabole sur le bon samaritain et nous oblige à reconsidérer les choses. Et puis la rencontre en Samarie avec cette femme autour d'un puits aussi, l'accueil favorable de cette population nous a plutôt réconfortés. Mais les extrémités de la terre, c'est vague, hein? Est-ce qu'ils ont conscience à ce moment-là que Jésus les appelle à devenir les témoins dans des contrées aussi éloignées que ce que nous verrons et que ce qui va se passer de la terre d'Israël? Personnellement, j'en doute fort. Déjà, on peut s'interroger sur le terme de témoin, le mot témoin. De nouveau, je vous propose d'interroger le Larousse pour définir le sens de ce mot. Un témoin, c'est une personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut éventuellement le certifier, le rapporter. L'envoi des apôtres par Jésus à cet instant, c'est que cela. Rapporter et certifier ce qu'ils ont vu et entendu au cours des 3 ans passés avec lui. Il ne leur demande pas là de fonder un nouveau mouvement, juste de témoigner de ce que lui-même leur a dit, enseigné, de ce qu'il a fait, comment il a vécu sa mort et sa résurrection. Ce n'est que cela, mais c'est tout cela. Cet appel qui vaut pour eux, c'est aussi un appel qui vaut pour nous, témoigner de ce que Jésus a fait, dit, de sa mort, de sa résurrection, de ce qu'il a fait pour nous personnellement, de comment il a transformé nos vies, de comment il a ouvert une porte à une vie éternelle à ses côtés. Et comme les apôtres, nous sommes envoyés selon l'appel, chacun selon l'appel qu'il a reçu du Seigneur. Les uns en proximité, à Jérusalem, en Judée, en proximité de leur lieu de naissance, tandis que d'autres se rapprocheront de la Samarie, comme l'évangéliste Philippe, et d'autres encore s'en ardiront vers des contrées beaucoup plus lointaines, et Paul étant bien sûr l'exemple biblique le plus connu. Tous veilleront à maintenir une unité et une cohésion avec l'Église de Jérusalem, où seront dans les premières décennies, discuter et décider les grandes orientations prises. C'est vrai que l'appel de Dieu engendre parfois des situations qui prennent au dépourvu l'institution de l'Église, comme quand Pierre, par exemple, hein, on l'a rappelé il n'y a pas si longtemps, a été appelé par Dieu à se rendre chez Corneille. Il en a rendu compte devant l'Église à Jérusalem et l'Église a reconnu alors que le Saint-Esprit pouvait être reçu par les païens tout aussi bien que par les juifs, ce qui ne tombait pas du tout sous le sens à ce moment-là. Ou encore quand Paul est venu à Jérusalem pour débattre de la question de la circoncision ou non des païens, dont je pense que quand même la dispense a pu représenter pour plusieurs une forme de renoncement à des principes qui jusque-là étaient intangibles. Malgré l'appel qui consumait son cœur de porter au plus vite l'évangile aux extrémités de la terre, Paul a préféré prendre le temps nécessaire pour que toute l'Église soit unie dans sa mission universelle, d'un plein accord, et qu'il puisse parler ainsi et agir en son nom, chose d'ailleurs qu'il rappellera par la suite à plusieurs reprises. Aujourd'hui, le principe reste le même. Jésus construit son Église en vue d'une mission qui n'a pas changé. Être ses témoins dans toute notre Judée, dans la Samarie voisine et jusqu'aux extrémités de la terre. Il nous faut savoir reconnaître l'appel que Dieu adresse à certains d'entre nous et parfois vivre le déchirement de voir partir au loin ceux sur lesquels nous comptions tant, chez qui nous avions discerné un don que nous estimions utile pour notre communauté. Il nous faut même les aider à reconnaître leur appel, leur accorder le soutien nécessaire et les considérer comme nos propres envoyés parce qu'ils en ont besoin pour agir en pleine assurance et en pleine liberté. Mais je crois qu'on peut voir les choses sous un angle qui ne se limite pas seulement aux notions de distance géographique. Les appellations de Judée, de Samarie, de reste du monde véhiculent des notions qui ne s'expriment peut-être pas seulement en kilomètres. Pour les disciples qui écoutent les paroles de Jésus, la Judée, et plus encore Jérusalem, bien sûr, c'est être appelé parmi les Juifs de souche, c'est-à-dire parmi les frères. Ce n'est pas pour autant plus facile, parce qu'ils sont bien placés pour connaître leur hostilité. Seulement, Jésus précise bien toute la Judée, parce qu'il n'est pas question qu'un seul Juif n'ait jamais entendu parler de Jésus. Il est venu parmi les siens. Et donc, il veut que chacun des siens ait eu l'occasion d'entendre parler de lui. Et malgré l'urgence que nous pouvons légitimement éprouver à faire connaître Jésus à tous les hommes qui nous entourent et qui vivent loin de lui, il n'est pas question qu'un seul de nos enfants soit négligé dans sa croissance spirituelle. Et il n'est pas non plus question que sous prétexte que des centaines de milliers de personnes ne reçoivent que des miettes de la parole de Dieu, qu'un seul de nos membres soit privé d'un enseignement qui nourrisse sa foi et ne trouve parmi nous de quoi étancher sa soif de connaissances bibliques. L'appel de Dieu peut se concrétiser simplement en étant envoyé par l'Église de l'autre côté de la cour, dans la salle d'école du dimanche, tout comme à se porter responsable d'un groupe de maison, à animer l'étude biblique, à prêcher, à animer la louange, faire la musique, à garder les enfants à la crèche, sais-je encore. Cependant, aucun d'entre nous, tout autant qu'il soit appliqué à répondre à cet appel de Dieu reconnu par l'Église, ne peut se soustraire à cette réalité immuable. Nous sommes témoins de Jésus, témoins toujours, témoins tout le temps, en tout lieu, en toute compagnie. Nous sommes témoins, que nous le voulions ou non, de ce que nous avons vu ou entendu. C'est même ce que nous avons vu et entendu qui fait de nous des témoins. Un témoin peut ne pas témoigner et se taire, mais il reste, demeure un témoin jusqu'à sa mort. Et même si notre appel, notre vocation, c'est de servir le Seigneur dans l'Église, aucun de nous ne vit chaque instant de sa vie parmi les frères de Judée. Comme Dieu a soumis Pierre à une rencontre dérangeante avec Corneille, nous pouvons être inopinément soumis à une mission ponctuelle, même si ce n'est pas notre mission particulière auquel Dieu nous appelle à consacrer notre vie, mais Dieu peut nous soumettre ponctuellement à une mission qu'il aura préparée d'avance pour que nous l'accomplissions. La Samarie. Alors, en tant que chrétiens occidentaux du XXIe siècle, il est peut-être un peu plus difficile de faire un parallèle avec la situation du premier siècle entre Juifs et Samaritains. Les Samaritains étaient sujets d'un État qui ne les considérait pas comme juifs. En quelque sorte, des juifs de seconde zone. L'évangile de Jean nous dit expressément que les juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Pour le chrétien d'origine juive qui était envoyé en Samarie, il y avait de grandes appréhensions à surmonter. Je pense que peut-être, malgré tout, l'image, même si on a du mal à faire ce parallèle, l'image peut parler à ceux d'entre nous qui n'ont pas un arrière-plan chrétien, dans le sens où nous le concevons ici. Une certaine culture teintée de notions chrétiennes parfois mêlées de pratiques contraires, le tout avec sincérité, mais peut-être qu'ils ne cherchent pas plus loin. Être témoin de Jésus dans ces conditions n'est pas si facile et vous passez vite pour soit un puritain, soit un exalté, quand c'est pas pour un fanatique radicalisé. On se prive pas non plus de vous mettre face à vos défauts et à vos contradictions. Je pense aussi aux cultures à forte valeur religieuse qui portent sur Jésus un regard, sinon hostile, du moins très éloigné de ce que nous enseigne la Bible. Et bien sûr, vous aurez reconnu là l'islam. Mais je pense aussi aux juifs de notre temps, avec lesquels nous, chrétiens, entretenons peu de relations et qui sont peut-être, par une inversion des rôles, devenus les Samaritains de notre époque. Être témoin de Jésus auprès de ces populations nécessite, comme Jésus nous l'a démontré avec la femme samaritaine autour du puits, une approche spécifique qui consiste à les rejoindre sur leur terrain tout en témoignant une véritable sensibilité à leur égard. C'est encore là une autre définition du témoignage, quelque chose qui se dit témoigner de la bienveillance, témoigner de la compassion, témoigner de l'amitié, de la compréhension, de la patience, voire du pardon. Bien sûr, cette forme de témoignage ne remplace pas le témoignage direct de la parole par la parole, mais elle peut le préparer, en tout cas elle doit l'accompagner et elle doit être sincère. Et enfin, les extrémités de la terre. C'est l'aventure. Là, on sort des spécificités de ceux qui nous ressemblent de près ou de loin. Il s'agit de témoigner de Jésus à ceux dont même son nom ne dit rien. Et les questions qui étaient posées aux enfants tout à l'heure rejoignent vraiment cette thématique, hein. Mais il est quand même à noter que les extrémités de la terre se sont singulièrement rapprochées de nous au cours de ces dernières décennies. Et je ne parle pas des voyages en avion. Trouver quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de Jésus, ne serait-ce qu'il y a 50 ans, aurait été une tâche difficile. Je ne veux pas dire par là que tout le monde était chrétien, loin de là, mais la personne et le nom de Jésus évoquaient quelque chose dans l'esprit de presque tous, et tous se positionnaient plus ou moins par rapport à lui, les uns pour adhérer, les autres pour le combattre, et l'immense majorité pour choisir de l'ignorer. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde assez comparable à celui des missionnaires qui approchaient des populations n'ayant aucun lien, aucune connexion avec Jésus. Comme Paul à Athènes, par exemple. Ces personnes, nous les trouvons à nos portes, dans nos rues, nous les côtoyons au travail, et probablement plusieurs d'entre nous se reconnaissent dans leur ignorance totale de ce qui concerne Jésus, avant de le rencontrer personnellement. Il est même possible que ce matin, nous accueillions parmi nous plusieurs de ces personnes qui ont plus entendu parler de Jésus au cours de l'heure qui vient de s'écouler que dans tout le restant de leur vie. Les extrémités de la terre sont là, tout près de nous. Et vous le voyez, la vocation du chrétien, l'appel de Dieu pour le chrétien, peut prendre des formes multiples. Dieu merci, il restera toujours des personnes que Dieu appellera à lui consacrer leur vie en totalité. Comme Jésus nous l'a commandé, il convient de prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson, et c'est le sens du dimanche des vocations. Mais il y a un appel, il y a une vocation pour tout croyant à être témoin de Jésus en tout temps, dans toutes sortes de circonstances. J'aime beaucoup me référer à un verset qu'on trouve dans la première épître de Pierre, que j'aime beaucoup me remémorer régulièrement, qui dit ceci: « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. » Et le mot que je trouve le plus important là-dedans, c'est toujours prêt. Parce que peut-être on n'est pas appelé à prendre les devants et à aller de soi-même porter la bonne nouvelle. C'est, on peut admettre que c'est l'appel de quelques-uns, mais être toujours prêt, c'est quelque part avoir fait la moitié du chemin lorsque l'occasion se présentera. Et j'ai vécu deux exemples très proches à titre personnel. Un premier auprès d'une personne à qui j'avais à cœur de témoigner, mais la première fois, c'était très facile, c'était servi sur un plateau, mais je ne m'étais pas préparé et je n'ai pas témoigné. Et la deuxième fois, c'était pourtant beaucoup plus difficile, il fallait un peu ramener les choses pour y aller, mais là, j'étais prêt et le témoignage a pu avoir lieu. Donc, cette idée d'être toujours prêt, c'est quelque chose qui peut se renouveler tous les matins. Cette notion de se préparer, à défendre, hein, comme dit l'apôtre Pierre, à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Il ne faut pas perdre de vue que Dieu appellera les ouvriers de demain, probablement parmi ceux envers qui nous témoignons aujourd'hui. Alors, si nous voulons que le Seigneur envoie beaucoup d'ouvriers, et je crois que c'est ce que nous voulons, que ce soit de l'autre côté de la cour, dans notre Judée ou aux extrémités de la terre, il faut encore que beaucoup plus de gens rencontrent Jésus. Et pour cela, il faut donc beaucoup plus de témoins. Et légitimement, alors, nous pourrons attendre le retour de Jésus et l'établissement de son royaume.